Le climat est-il en train de basculer vers un réchauffement brutal et impossible à arrêter ? C'est la question soulevée par des chercheurs qui travaillent sur l'hypothèse d'un dérèglement climatique abrupt, de seuils irréversibles et de points de bascule. Les conséquences matérielles seraient massives, hausse du niveau des océans, qui rendrait impossible la vie sur les côtes, intensification des ouragans, réduction des pluies dans des régions désertiques comme le Sahel. Alors ce n'est pas une certitude, c'est même une controverse scientifique, mais elle donne la mesure de la gravité des dérèglements en cours. C'est le sujet de ce nouvel épisode de Point de rupture, notre émission consacrée au bouleversement du système par l'écologie. Et pour en parler, je reçois Xavier Capet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe. Et je reçois Gilles Rammstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue, c'est-à-dire spécialiste du climat du passé. Alors, pour commencer, Xavier Capet, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux comprendre en fait ce que peut signifier cette notion de point de bascule quand on parle de changement climatique ?
Oui, alors ce qu'on peut peut-être dire pour commencer, c'est le fait qu'on a quand même l'habitude de vivre dans un environnement physique et écologique qui est relativement stable. C'est-à-dire que, par exemple, le climat qu'on expérimente en France ne peut pas devenir le climat de Los Angeles ou le climat de Moscou. Et donc on vit avec entouré par cette idée de relative stabilité. Mais ceci étant dit, il y a un certain nombre de systèmes physiques et écologiques qui, lorsqu'ils sont soumis à des perturbations, peuvent présenter des comportements de type abrupt dans lesquels on a d'abord une... Et quand on parle de perturbations, concrètement, là, dans la discussion, on va beaucoup parler d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on peut imaginer aussi ça dans un contexte écologique avec une espèce de poisson qui serait pêché et dans laquelle la perturbation serait la surpêche ou des variations du climat, par exemple, qui agissent sur un stock de poissons. Et donc, on peut avoir des comportements dans lesquels le système considéré va, dans un premier temps, réagir assez faiblement à la perturbation et puis, à un moment donné, lorsqu'on passe un seuil, et le terme clé est clé, là, le terme de seuil, on va avoir une réaction qui va être beaucoup plus intense, beaucoup plus importante, et donc on va avoir une réaction abrupte qui est difficilement prévisible, hein, parce qu'elle est liée à des petits changements qui produisent des grandes conséquences. Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est que un des attributs de ces phénomènes abrupts, c'est le possible caractère difficilement réversible, voire irréversible, qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'enlever la perturbation pour revenir à l'état qui précédait la bascule, le point de bascule ou le point de rupture. Et ça aussi, c'est un élément. Il n'est pas toujours présent, mais il est souvent associé, dans un certain nombre de cas, associé à ces points de rupture.
Alors, Gilles Rammstein, pour essayer de rentrer un peu dans la compréhension de ces phénomènes potentiels de points de bascule, est-ce que vous, en tant que spécialiste de l'histoire du climat, vous pourriez nous donner des exemples ? Est-ce que ça a déjà existé, en fait, dans l'histoire de la planète, des points de bascule climatique ?
Alors, d'abord, l'histoire de la planète, elle est très très longue. C'est 4,6 milliards d'années. Et évidemment, pendant toutes ces périodes qui sont incommensurables et difficiles à imaginer, il y a eu des points de bascule. Alors, comme Xavier le disait, l'interglaciaire dans lequel on est, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, en gros, le climat est relativement stable à l'échelle globale. Par contre, avant cet interglaciaire, il y avait un climat qu'on appelait glaciaire, où il y avait 4 calottes de glace, et non pas 2 comme aujourd'hui. On avait une calotte de glace sur l'Amérique du Nord, qui était haute de 5 km, qui enfonçait le socle rocheux d'à peu près 1 km, donc c'est vraiment des grosses calottes de glace. Une autre sur le nord de l'Europe. Et ces calottes de glace, donc en période glaciaire, elles étaient instables. C'est-à-dire que tous les 6 à 7 000 ans, elles couvraient le nord de l'océan Atlantique d'icebergs qui dérivaient tranquillement jusque et fondaient à peu près à la hauteur de l'Espagne, du Portugal. Et on trouve donc des gros grains, des cailloux qui ont été transportés par ces glaciers qui ne peuvent pas être venus par l'éolien, c'est-à-dire par le vent.
D'accord, donc ça c'est comme ça qu'on sait qu'à cette période lointaine, voilà. On avait des énormes blocs voilà. De glace dans l'Atlantique Nord.
Voilà, c'est ça. Alors vous pourriez vous dire, bon, d'accord, il y a d'énormes blocs dans l'Atlantique Nord, ça change un peu le climat autour du Groenland, mais c'est pas ça qui est grave. En fait, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a des points de rupture, et ces points de rupture sont souvent associés au talon d'Achille. C'est-à-dire, à des moments, comme Xavier le disait, on va passer un seuil, c'est-à-dire qu'on va faire une petite modification supplémentaire, mais qui va dépasser une valeur, et donc on va tomber sur un autre état. Alors, qu'est-ce que faisaient ces icebergs ? Eh bien, ils amenaient, évidemment, les icebergs, ils amenaient de l'eau douce dans l'océan. Et cette eau douce, elle avait tendance à diluer les zones qui sont effectivement des talons d'Achille, les zones de l'océan où on forme des eaux profondes. Les océans actuels, ils sont tapissés d'eaux profondes, et ces eaux profondes, elles viennent de petits endroits où il y a ce qu'on appelle la convection, c'est-à-dire que des eaux très denses et très salées et très froides vont être donc très denses et vont aider le système à plonger. C'est comme ça qu'on tapisse le fond des océans. Eh bien, quand vous avez ce type d'événement, c'est-à-dire tout à coup de l'eau douce qui arrive dans le système, eh bien, vous coupez ce système. Et quand vous coupez ce système, ça a une influence globale. C'est-à-dire que la circulation thermohaline, c'est-à-dire le fait que l'océan apporte de la chaleur, eh bien ça dépend de deux grandes valeurs, thermo, c'est-à-dire la température, et le halin, c'est-à-dire le sel. Donc ces zones-là, qui ont des capacités à former des eaux profondes, elles sont fragiles. Donc ces icebergs fragilisaient ces zones, et en fait, on voit des changements climatiques globaux, c'est-à-dire qu'on voit des changements climatiques correspondant à ça dans l'océan austral, on voit des changements climatiques correspondant à ça dans les grottes, en Asie, en Israël. Et donc, ça fait un changement global. Pourquoi ? Parce que ces petites zones, en fait, déterminent ce qu'on appelle le tapis roulant océanique, ce qui est un peu une caricature. Mais en fait, quand vous coupez quelque part ce tapis roulant, eh bien, vous avez des impacts qui sont globaux. Donc, cette histoire de rupture, elle est très présente dans les climats glaciaires, beaucoup moins dans les climats interglaciaires qui sont plus stables.
Et pardon, mais juste pour qu'on précise bien pour les personnes qui nous écoutent, là, les changements que vous évoquez, c'est des choses qui se sont produites il y a 10 millions d'années à peu près ?
Alors, non. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Là, on est depuis des millions d'années, disons depuis les deux derniers millions d'années, dans une phase un peu particulière du climat, c'est-à-dire que tous les 100 000 ans, il y a des calottes de glace énormes, celles dont je vous ai parlé, qui mettent à peu près 80 000 ans à se construire. Et puis, c'est la déglaciation, elle met 10 000 ans à fondre, et il nous en reste deux, l'Antarctique et le Groenland, comme aujourd'hui. Et puis, ça recommence. C'est des phénomènes très périodiques, avec une échelle de 100 000 ans. Et ces événements dont je vous parle, qu'on appelle des Heinrich Events, pourquoi ? Parce que l'étudiant qui faisait sa thèse sur ces grains a rapidement compris que ces espèces de bandes de grains qu'on a tous les 6000 à 7000 ans au large du Portugal, ils avaient été apportés par des espèces de grandes débâcles glaciaires. Et donc, premièrement, ces Heinrich Events sont périodiques. En période glaciaire, on en a tous les 6 à 7000 ans. Et le dernier qu'on ait eu, donc le dernier qu'on ait connu, c'était il y a à peu près 19000 ans. Mais depuis, si vous voulez, depuis la période interglaciaire où on a une relativement grande stabilité du climat. On n'a pas d'événements aussi extraordinaires que ceux qui ont marqué le glaciaire. Pourquoi ? Parce que les calottes de glace sont beaucoup plus stables.
Merci beaucoup, c'était très clair cette description. Est-ce que si maintenant on regarde aujourd'hui ce qu'on pense qu'il est en train de se passer ou de ce qu'on comprend de ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique, est-ce que vous, avec votre connaissance historique, après je vais demander à Xavier avec sa connaissance des océans, mais avec vos connaissances historiques, est-ce que ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, comment ça se rapproche ou ressemble à ces points de rupture que vous nous avez décrits historiquement ?
Alors, en fait, c'est un peu comme quand on tire sur un élastique un point de rupture. C'est-à-dire que le système va être capable d'amortir jusqu'à un certain point. Et effectivement, il y a plusieurs types de ruptures qui peuvent se produire. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, on est en train de forcer le système extrêmement, extrêmement fort. Donc, je vais donner quelques exemples pour que ce soit précis dans la tête des auditeurs. Donc, on a déjà parlé du fait que, à cause du fait qu'on est en train de réchauffer l'atmosphère en mettant des gaz à effet de serre, on a en fait un réchauffement des hautes latitudes qui est très fort et qui est très, très bien observé. et une fonte des calottes de glace. Donc si cette fonte est accélérée, qu'on amène de l'eau douce dans des régions de formation d'eau profonde, ça c'est une première raison d'avoir une non-linéarité, comme Xavier en a parlé un peu, c'est-à-dire un petit changement produit des grands impacts. Mais il y a aussi des non-linéarités qui sont liées au cycle du carbone. Par exemple, aujourd'hui, quand vous émettez deux molécules de CO2, elles rentrent dans l'atmosphère, et bien pour chaque fois qu'il y a deux molécules de CO2 qui sont produites, heureusement, la nature en prend en charge une. C'est-à-dire qu'il y a une molécule de CO2 qui va être soit prise en place, en charge par la biosphère terrestre, sous forme de végétation terrestre, soit par la biosphère marine.
Ce qu'on appelle les puits carbone.
C'est ça. Ouais. Il y a un équilibre aujourd'hui entre source et puits de carbone. Cet équilibre, on va le changer. On va le changer pour plusieurs raisons, mais une des raisons, ne serait-ce que physique, c'est que plus on réchauffe les océans, la surface des océans, moins ils sont aptes à capter du carbone. Et donc, des océans plus chauds vont capter moins de carbone, et donc il va y avoir une amplification du carbone qui va rester dans l'atmosphère. Un autre processus d'amplification, c'est les pergélisols. Les pergélisols, ce sont des sols gelés qu'on trouve au Canada, en Sibérie. Si on fait fondre ces sols gelés, alors il y a des choses spectaculaires. Hein. Quand on fait fondre ces sols gelés, tout ce qui a été construit dessus va avoir tendance à s'effondrer. Donc ça, c'est mécanique, c'est à cause du fait qu'ils se remplissent d'eau, ils deviennent meubles. Mais du point de vue chimique, ces sols gelés contiennent beaucoup de carbone et de méthane, et donc ils vont dégazer ça, en plus de ce que nous-mêmes on fait. Et donc ça aussi, c'est une amplification du système. Et vous avez comme ça des boucles de rétroaction qui peuvent vous amener à dépasser des seuils et à faire que, effectivement, vous avez une rupture dans le système climatique.
Xavier Capet, donc vous êtes océanographe, spécialiste des climats, mais à travers l'étude des océans. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'irréversibilité. Qu'est-ce que vous, de ce que vous connaissez de la manière dont les océans aujourd'hui sont impactés par ces dérèglements climatiques et ce que vient de décrire très bien Serge Rammstein, ça serait quoi par exemple une modification irréversible du climat via les océans? Si on essaie de décrire en gros, qu'est-ce qui pourrait donc se passer si cela se produisait?
En fait, la notion d'irréversibilité, elle est assez complexe et c'est en ça, je pense que il faut prendre le temps d'avoir une discussion sérieuse sur ces questions de points de bascule et de la question associée des possibles irréversibilités, parce que irréversibilité dans l'absolu, ça n'a pas vraiment de sens. La question, c'est sur quelle échelle de temps le système a changé d'état et va rester dans un nouvel état qui n'est pas forcément un état désirable. Si on veut prendre peut-être ce qu'on pourrait considérer comme le plus proche de l'irréversibilité, c'est probablement la montée du niveau marin. On a engagé par le réchauffement planétaire des modifications profondes de toute la partie glace, et en particulier les calottes glaciaires, qui va amener une fonte qui va perdurer pendant des milliers d'années. On pourrait dire, là, on est typiquement dans une situation irréversible aux échelles humaines qu'on est capable d'appréhender. Après, il y a d'autres phénomènes qui vont également mettre... L'océan, d'une manière générale, est un réservoir avec des échelles de temps longues, moins longues potentiellement que la cryosphère, la glace dans les calottes en particulier. Mais l'acidification des océans, donc le fait que les océans, ce que disait Gilles, le fait que les océans nous protègent d'une certaine manière d'une partie du réchauffement climatique parce qu'ils sont capables de capter une partie du carbone, du CO2 que nous émettons et de l'enfouir. Ça contribue à modifier les propriétés des eaux des océans, à les rendre plus acides. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est là pour très très longtemps, des centaines, voire milliers d'années. Le signal sera présent pendant très longtemps. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des changements comme ça qui vont se faire sur des temps très longs. Mais de nouveau, par rapport à ce qu'on connaît de l'état des connaissances, ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre des choses. Là, on est en train de parler de choses qui sont irréversibles, mais on n'est pas en train de parler de choses qui vont se dérouler de manière abrupte, ou en tout cas, a priori, pas nécessairement abrupte. Sur la question de la fonte des calottes, il peut y avoir des phénomènes d'accélération, éventuellement imprévus, parce qu'on sait qu'il y a des instabilités possibles. Les instabilités, ça veut dire que ce qu'on voit et ce qu'on a vu vu jusqu'à maintenant, c'est pas forcément ce qui va continuer à se passer. Il peut y avoir des accélérations rapides, mais par exemple sur le pH, sur l'acidification des océans, donc le fait que on a du CO2 qui entre dans l'océan et qui en modifie les propriétés chimiques. Ça c'est pas du tout abrupt en fait. C'est même très progressif. Donc il faut bien séparer. Il y a un peu tout dans cette question des points de bascule. Il y a des points de bascule, et peut-être que je peux prendre un exemple, et Gilles pourra compléter éventuellement. On a peut-être déjà passé un point de bascule sur l'existence à long terme de la calotte du Groenland.
Alors, je crois que pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Et parce que l'état de l'art, c'est que en gros, pour un réchauffement qui serait entre 1,1 et un peu plus de 2 degrés, et on n'est pas sûr de où est le seuil, à très long terme, a priori, on est dans une situation climatique incompatible avec l'existence d'une calotte sur le Groenland. Et on a peut-être déjà, on est autour de 1 degré de réchauffement à l'heure actuelle, un peu plus, on a peut-être déjà, ou on va peut-être passer un point de bascule sur la question de l'existence à long terme, je précise bien à long terme, de la calotte du Groenland.
À long terme, sur quelle temporalité ?
Mais sur plus de 10 000 ans.
C'est ça.
Et ça, c'est très important. C'est en ça que la discussion est subtile et qu'elle nécessite d'être bien explicitée. C'est que on peut avoir des phénomènes irréversibles, mais c'est un peu comme si on imagine un point de bascule. L'analogie du point de bascule, ça peut être la chaise. On est sur une chaise. Quelqu'un nous tire. Et notre intuition physique, notre compréhension, y compris qu'on peut avoir acquise en classe, c'est que si quelqu'un nous tire par derrière, une toute petite façon de tirer, et hop, on va tomber et on peut rien y faire.
Ouais.
Là, il faut imaginer que dans le cas du Groenland, la chaise va tomber et la personne dessus avec, mais elle va tomber extrêmement lentement.
Ouais.
Et ça, c'est pas du tout intuitif. Voilà. Donc la notion de point de bascule, c'est une métaphore.
Ouais.
Mais il faut s'en méfier parce qu'elle dit des choses qui ne sont pas forcément transposables au système climatique.
C'est pas le jour d'après, quoi. Si on a en tête ce
film
catastrophe qui montrait d'un coup une ère glaciaire qui s'abattait soudainement sur le monde et notamment sur la ville de New York, c'est pas ça.
Non. Oui. C'est le contraire de ça.
Le gros intérêt de la paléoclimatologie, c'est que on a plein de données dans le passé et plein de transitions climatiques. Si on s'intéresse aux transitions climatiques, on se dit ben voilà. Comment ça fond une calotte de glace ? Comment va fondre la calotte de glace groenlandaise ? Comment va fondre la calotte de glace antarctique ? Est-ce que ça fond comme une glace au soleil ? Vous achetez une glace à la pistache à votre gamin, il découvre qu'il n'aime pas la pistache, ben, ça va fondre tranquillement, il va en avoir plein les mains et tout ça. Mais les calottes de glace, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors comment on le sait, ça ? On le sait parce qu'il y a 20 000 ans, comme je vous l'ai dit, il y avait d'énormes calottes de glace dans l'Europe du Nord qui ont fondu en 10 000 ans. Comment elles fondent ? Ben, ça, on peut le savoir. On peut, en paléoclimatologie, reconstruire très précisément le niveau marin pendant cette fonte. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des phases de fonte très linéaires, c'est-à-dire très douces, et des phases où la calotte, tout à coup, se restructure, se réorganise et balance plein d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Et donc, on sait, si vous voulez, qu'à des échelles de temps de siècles, à la fois la calotte groenlandaise et l'Ouest Antarctique, qui sont les calottes plus vulnérables, vont fondre et que leur scénario de fonte va être sans doute pas un long fleuve tranquille, mais des soubresauts. Donc ça, c'est inhérent au système, on peut l'expliquer. Et puis, vous pouvez vous dire, bon, d'accord, aujourd'hui, il y a 410 ppm dans l'atmosphère, mais ça a déjà existé dans l'histoire de la Terre. Ben oui, en effet, ça a existé.
410 ppm, excusez-moi, particules par million.
Particules par million. C'est-à-dire
de
que
CO2
là,
dans l'atmosphère.
Voilà. Il se trouve que, dans les années 50, quelqu'un qui s'appelle Ralph Killing a eu l'idée de monter à Hawaï un observatoire, le premier, pour montrer et quantifier et regarder à quelle vitesse on changeait le CO2. Le CO2, on l'émet et il se mélange très rapidement dans l'atmosphère. Donc il s'était mis à Hawaï pour être un peu loin de toute pollution et il a commencé à mesurer. Et c'est comme ça, c'était le premier observatoire, qu'on a pu observer comment et à quelle vitesse on changeait le CO2. Donc le CO2, normalement, il devrait être à 280 ppm, 280 parties par million. Et aujourd'hui, il est déjà à 415 ppm. Donc vous vous dites, 415 ppm, je voudrais savoir quand est-ce que l'histoire a déjà... Quand est-ce que dans l'histoire, on a eu un climat pareil ?
Ouais.
Donc vous êtes obligé de remonter un peu loin, parce que les 2,7 milliards d'années c'est des périodes froides. Donc pour toucher des périodes chaudes, il faut monter jusqu'à 3 millions d'années.
Okay.
Bon, alors vous vous dites 3 millions d'années, et c'est là que ça rejoint ce que Xavier disait. Il y a 3 millions d'années, on se met dans le climat, on regarde quel climat il y avait. Et là, il n'y avait pas de perturbation liée à l'homme, donc le climat était à l'équilibre. Et les calottes de glace étaient aussi à l'équilibre. Mmh. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'au Pliocène, il y a 3 millions d'années, on a un climat qui est à peu près plus chaud de 2 degrés. Mais la chose qui frappe vraiment quand on voit la Terre telle qu'on l'a reconstruite, c'est que le niveau marin était 15 mètres plus haut.
Et pourquoi? 15 mètres?
Oui, 15 ouais. mètres. Pourquoi?
2 degrés de température de plus et ouais. 15 mètres plus haut.
Voilà, c'est ça la grosse différence mmh. entre ce qu'on fait et ce qui a existé. Mmh. Dans ce qui a existé, comme il n'y avait pas de perturbation comme nous, eh bien le climat se mettait tranquillement en place mmh. et on avait le temps de voir ce qui allait arriver. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on est dans un climat à 415 ppm, comme c'était le cas au Pliocène il y a 3 millions d'années, eh bien, il n'y a pas de calotte groenlandaise et il n'y a pas d'Antarctique de l'Ouest. Et ça, pour des raisons physiques. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrêtait tout et on restait avec le CO2 qu'on a, c'est-à-dire 415 ppm, pendant des siècles, on verrait disparaître ces calottes de glace. Parce qu'elles ne sont pas faites pour vivre avec une couverture chauffante aussi efficace.
C'est-à-dire que, pour bien vous comprendre, même si on arrêtait d'émettre du CO2, enfin ce qui est impossible, mais imaginons, si jamais on arrêtait tous d'émettre du CO2 dans nos sociétés, pour autant, avec ce niveau-là de concentration de CO2 dans l'atmosphère, ces calottes glaciaires, inévitablement, fondraient à un rythme sur plusieurs milliers d'années.
C'est exactement ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'il y a dans le système climatique des composantes rapides, l'atmosphère, et des composantes plus lentes, l'océan, la cryosphère. Okay. Et quand vous arrêtez, si aujourd'hui on est à 415 ppm et pendant un siècle on arrête, eh bien l'océan continuera de se réchauffer parce que c'est un système lent et les calottes de fondre. Mmh. C'est ça l'inertie du système. C'est, c'est pour ça que d'ici 2030, on aura beaucoup de mal à changer. Par contre, d'ici 2050, tout n'est pas joué. Mais il y a une certaine inertie dans ce système qui fait que... c'est la raison pour laquelle le Pliocène n'est pas un bon analogue, parce que comme vous l'avez dit, Jade, en fait, pour le Pliocène, tout s'est fait à l'équilibre, alors que nous, on est en train de vivre non pas un climat à l'équilibre. Mmh. Le climat à l'équilibre, c'est des calottes de glace extrêmement réduites. Mais une transition fulgurante, c'est-à-dire qu'en quelques siècles, on change le contenu atmosphérique et on change la surface, on réchauffe les continents et les océans, et on produit une transformation extrêmement rapide. Et donc la calotte, elle imprime ça, mais elle ne réagit pas immédiatement. Et il faudra attendre. Si vous regardez dans le GIEC, le dernier rapport, la plupart des modèles se mettent d'accord sur le fait que la remontée du niveau marin, si on continue sur le scénario sur lequel on est, qui est le pire, sera d'à peu près un mètre, au moins un mètre à la fin du siècle. Et à la fin du siècle prochain, si on reste à un niveau de CO2 qui est à peu près l'actuel, on aura plusieurs mètres, 9 mètres environ, d'augmentation du niveau marin.
Donc, 9 c'est mètres, dire, plus 9 mètres.
Pourquoi? Parce que les calottes répondent à ce forçage de réchauffement et elles mettent leur temps pour le faire.
Ça veut dire qu'avec ce niveau-là de concentration de CO2 dans l'atmosphère, la conséquence en fait, du réchauffement sur la calotte glaciaire n'est pas simplement qu'elle fond plus vite, c'est que par ailleurs ça provoque d'autres conséquences.
Elles font, alors ça on peut le voir avec des satellites, des altimètres, on peut regarder, faire ce qu'on appelle des bilans de masse, c'est-à-dire de regarder comment la calotte répond. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le flux d'eau douce du Groenland et de l'Antarctique augmente, donc les calottes fondent et elles injectent du flux de l'eau douce dans l'océan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, ce n'est que le début. Le temps, si vous voulez, en fait, il faut imaginer dans l'océan, comme dans les calottes, un espèce de temps de progression de la chaleur. Donc là, pour l'océan, si vous coupez le CO2 aux valeurs actuelles, eh ben les fonds océaniques vont continuer de se réchauffer. Parce que ça, c'est l'inertie. Mmh. Et c'est pareil pour les calottes de glace. La température, elle est maximum à la surface de la glace, elle est minimum à la surface de la glace, et puis après, excusez-moi, elle augmente au fur et à mesure qu'on rentre dans l'épaisseur de la calotte de glace. Ouais. Et donc, tout ça, ça met du temps. Et c'est ça la complexité du système, c'est que nous on a une vie d'homme et donc on raisonne assez bien à des échelles de temps de 50 ans, mais on a beaucoup de mal à penser 1000 ans, 2000 ans et les calottes de glace, c'est ça leur temps de réponse, c'est ça leur temps de vie, c'est des milliers d'années.
Alors Xavier Capet, il y a un article qui a été publié tout récemment qui concerne le Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, c'est ce, je vais le dire avec mes mots, c'est ce courant d'eau chaude qui traverse l'Atlantique et qui contrôle, a un effet sur la température et sur le climat des continents américains et européens. Et ben ce Gulf Stream, il semblerait, est en train de vivre quelque chose qui ressemble à un ralentissement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer que dit en fait cet article récemment publié et en quoi c'est lié avec la discussion qu'on a sur la question des points de bascule ?
Alors c'est lié à la question des points de bascule parce que peut-être une toute petite précision.
Absolument.
C'est que le Gulf Stream lui-même c'est pas lui, c'est-à-dire c'est une bifurcation. Okay. Le Gulf Stream c'est un courant qui peut pas s'arrêter à moins que la Terre s'arrête de tourner.
D'accord.
Je sais pas comment on ferait pour en arriver là. Il y a une partie de l'eau chaude qui est transportée par le Gulf Stream le long des côtes américaines qui une fois que le courant décroche des côtes américaines file vers le nord et en partant vers le nord ce que cette eau va faire c'est qu'elle va alimenter le processus dont parlait Gilles en début d'émission qui est le processus de convection, c'est-à-dire que il y a des eaux qui sont chaudes et qui sont relativement salées qui vont monter vers le nord petit à petit se refroidir parce que les interactions avec l'atmosphère font que l'atmosphère va lui prendre de la chaleur et c'est d'ailleurs ça qui participe à faire que notre climat est beaucoup plus tempéré que celui du Canada aux mêmes latitudes. C'est la contribution de ce courant d'eau chaude, de cette partie de la circulation thermohaline. Et donc ce courant va, les masses d'eau transportées par ce courant vont se refroidir, vont se densifier et elles vont plonger.
Allez-y, parce que je pense qu'il y a une très belle visualisation de ce phénomène par le New York Times.
Oui, qui est sorti récemment, effectivement, où on perçoit bien la manière dont, en fait, toute cette, l'Atlantique Nord joue un rôle très, très particulier, en fait, dans la circulation, dans ce tapis roulant des mondiales qui connecte les eaux des différents bassins océaniques, parce que c'est l'un des points clés où on a ce phénomène de connexion entre des eaux de surface et des eaux de subsurface.
Okay.
Et cette connexion, elle est capitale parce qu'elle permet de transporter, par exemple, un excès de chaleur. Ce que disait Gilles, un excès de chaleur, l'excès de chaleur qu'on produit avec le réchauffement, il y en a une partie qui est ressentie par les eaux de surface et emmenée en profondeur. Idem pour une partie du CO2 atmosphérique qu'on émet dans l'atmosphère, qui est captée par les eaux de surface dans l'Atlantique Nord et puis qui est ensuite emmenée par convection au fond où là, on le revoit plus pendant très 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 longtemps. Les échelles de temps pour que de l'eau qui a convecté en Atlantique Nord remonte en surface, c'est typiquement le millier d'années.
Okay.
Cette boucle de la circulation de ce tapis roulant, qu'on appelle la dérive nord-atlantique en général, donc cette dérive nord-atlantique, si elle se ralentit, forcément ça va avoir des conséquences sur le climat global.
Si elle se ralentit, parce que ce qui vient d'être mis en évidence par des chercheurs, c'est que peut-être elle se ralentit de manière mesurée, en fait. On arrive à mesurer le ralentissement.
Alors, on peut dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a un papier récent qui, à l'aide de reconstructions, ce n'est pas des mesures directes de cette circulation, mais à l'aide de reconstructions indirectes, notamment avec des techniques qui sont, j'imagine, familières pour Gilles, parce que c'est vraiment de la paléo-océanographie. Le papier indique de manière relativement robuste que cette branche de circulation qui participe à ce grand mouvement là de ventilation de l'océan profond est au plus bas depuis en gros un millier d'années. Par ailleurs, il y a un autre point qui est important, c'est que on sait, pour des raisons que Gilles a explicité de nouveau en début d'émission, que il y a un certain nombre de processus. La fonte des glaces qui vient mettre de l'eau douce dans l'Atlantique Nord et donc alléger les eaux. Ce qui produit là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui produit tout ça, c'est le fait que les eaux soient denses. Si elles sont denses, elles ont tendance à plonger. Tout ce qui contribue à les rendre plus légères réduit l'intensité de ce phénomène. Donc ça peut être parce qu'il y a de l'eau douce qui est relâchée par les calottes ou par la glace de mer. Ça peut être parce qu'on réchauffe l'océan, tout simplement. La chaleur aussi, la température aussi contribue à la densité. Et donc on sait que, et tous les modèles de climat le reproduisent, on va avoir progressivement au cours du 21e siècle une réduction de cette circulation thermohaline, de ce phénomène. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle avec la sortie du papier, qui encore une fois nous parle d'un temps de l'ordre d'un millier d'années sur lequel il s'est passé des choses qu'on comprend pas très bien, hein, on sait pas vraiment pourquoi il y avait plutôt une activité importante de ce courant il y a un millier d'années, mais la discussion qu'on voit se cristalliser sur les dernières décennies.
C'est ça, c'est la question de l'ère industrielle, en gros, c'est des essais
du jour de day after tomorrow, en français, c'est le jour d'après. Ouais. Est-ce qu'on est en train de casser le climat, sachant que ça a aussi des conséquences, pas seulement pour le climat global, mais pour les climats régionaux dans un certain nombre d'endroits, en particulier autour de l'Atlantique. Or, là-dessus, et peut-être que ça nous amène sur une deuxième partie de la discussion, il y a un emballement médiatique, parce que le papier ne dit rien de très intéressant, et peut-être même qu'il est un tout petit peu trompeur sur les dernières décennies. D'accord. Où on a l'impression, il y a une des courbes notamment dans le papier, où on a l'impression de voir une chute abrupte dans les dernières décennies. Ouais. Or, on sait très bien, parce qu'on a depuis 2004 un dispositif très compliqué qui permet de mesurer en fait l'intensité de ce courant. Combien d'eau passe à travers une section qui est à 26 nord, donc en gros elle part des États-Unis et puis elle va jusqu'en Afrique. On sait qu'il y a eu une petite chute juste après la mise en place, donc un peu après 2004, juste après la mise en place du dispositif, il y a eu une petite chute de l'intensité du courant, mais il est stable depuis 10 ans. Et donc on se retrouve finalement dans une situation un peu particulière, océanographe, climatologue, qui est que le public s'intéresse à des oscillations relativement courtes d'une quantité sur laquelle on peut pas dire grand-chose. Il y a des questions de recherche là-dessus. Pourquoi c'était plus haut en 2004 ? Ouais, il y a effectivement des éléments qui permettent de comprendre pourquoi. Mais il n'y a aucune raison de s'emballer particulièrement parce que ces dernières décennies, ce courant serait en train de se casser la figure. Il ne se casse pas la figure. Il est prévu qu'il se réduise d'ici 2100, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de...
D'accord. Donc on n'est pas en train de vivre un point de bascule ?
Non.
Sur ce phénomène-là spécifiquement ? Non. D'accord. Mais alors, tout ça, c'est vraiment passionnant de vous écouter parce que c'est vrai que ça remet énormément d'ampleur, en fait, temporelle dans ces discussions. Mais du coup, ça m'amène à la question suivante. C'est-à-dire, on vous entend sur l'importance de cette durée des modifications, des évolutions de la température, de la calotte glaciaire, du niveau des océans. On parle de temporalité, pardon, de plusieurs dizaines de milliers d'années ou même encore plus quand on vous écoute Gilles Rammstein, et en même temps, on ne cesse de nous dire qu'il y a une urgence climatique, qu'il faut agir maintenant, que dans 10 ans ce sera trop tard. Donc comment expliquer que ces temporalités sur une très très longue durée de bouleversement climatique, pour autant, elles requièrent d'avoir une action tout de suite, maintenant et très forte sur les émissions de gaz à effet de serre?
Juste un petit point sur la question d'avant. Ce papier de Kaiser et Ramsdorf, il fait suite à d'autres papiers qui étaient parus il y a une dizaine d'années sur le fait que, et dans des bonnes revues, parce que justement il posait une question qui intéressait tout le monde, c'était le fait de dire « Ah bah si le Gulf Stream s'arrête, finalement nous, en Europe de l'Ouest, comme on n'aura plus cet apport de chaleur, on aura un refroidissement et du coup, on sera plus touché par le réchauffement. » Donc il y a eu des grosses discussions sur le fait de savoir... Est-ce que ça, c'est possible ? C'est un scénario possible. Et il y a eu des simulations mieux faites, plus quantitatives, qui ont montré que oui, c'était possible que s'il y avait un affaiblissement du Gulf Stream, eh bien, en effet, il ferait un peu plus froid sur les côtes. Mais que, compte tenu de la rampe sur laquelle on est de réchauffement, ce serait simplement que ça se réchaufferait moins. On n'inverserait pas.
D'accord.
Et là, l'intérêt de ce nouveau papier, comme l'a dit Xavier, c'est, bon, pour pouvoir voir des choses sur la NA, sur la MOC, il faut pouvoir le mesurer.
La MOC, donc c'est ce phénomène...
C'est ce phénomène important de transport de chaleur par les océans dans l'Atlantique Nord. C'est ça qu'on appelle la MOC. Eh bien, cette grandeur-là, pour les températures, on a les thermomètres, pour la Pour les plus, on a des pluviomètres. Mmh. Comment on mesure la moque? Donc, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que Xavier a dit un peu comment c'était. Mais c'est déjà assez compliqué d'avoir une mesure quantitative.
Ouais.
Donc, ça, on peut le faire aujourd'hui, parce qu'on a plein de mesures. Ce que veulent faire Kaiser et Ramsdorf, c'est se mettre sur des temporalités de l'ordre de 1000 ans. Hein, je crois qu'ils ont à peu près 1500 ans de données. Et comment ils font pour les 1300 ans de données pour lesquels il n'y a pas de données, en fait? Il faut regarder autre chose, parce qu'on ne sait pas les calculer. Alors, ils utilisent ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire, c'est dans mon domaine, c'est-à-dire des indicateurs qui sont indirects d'une grandeur qui est difficile à mesurer.
D'accord.
Donc, il y a tout ça quand même dans ce papier.
Ouais.
Et à partir de tout ça, ce qu'ils montrent quand même, c'est qu'à l'échelle de centaines d'années, puisqu'ils ont mis 1500 ans de données, ils peuvent regarder ça, eh bien, ils voient qu'il y a une tendance marquée à la baisse. Ce qui n'empêche pas que Xavier a raison, quand on regarde sur des dizaines d'années, on voit que le signal est beaucoup moins.
Donc sur 100 ans, il y a quelque chose qui se voit, sur une dizaine d'années, c'est...
Alors, maintenant vous allez me dire, bon attends, on discute de ça, de la cryosphère, de l'océan, tout ça, ça ne bougera pas tout de suite, pourquoi faut se dépêcher?
Pourquoi l'urgence climatique? Pourquoi c'est compatible?
Pourquoi il y a une urgence climatique? Alors, je vais être extrêmement caricatural, mais pour ceux qui, des auditeurs qui ont déjà fait du bateau sur une rivière, et qu'il faut passer une écluse, ils savent très bien que s'ils s'y prennent trop tard pour tourner le volant, ils n'y seront pas dans l'écluse. Pourquoi? Parce que le bateau a une grosse inertie. Donc, il faut se préparer à passer l'écluse des dizaines de mètres avant d'arriver dans l'écluse. Sinon, c'est trop tard. On ne pourra plus rien faire. Les choses seront déjà jouées. Et bien là, si vous voulez, du point de vue climatique, les experts, autant les physiciens à travers le GIEC que les biologistes à travers leur communauté, ont fait une espèce de lancement d'alerte en disant voilà ce qui va se passer au cours du siècle, au cours des 50 prochaines années. Si on ne fait rien, si on fait quelque chose, donc il y a différents scénarios. Et tous ces scénarios montrent que, en fait, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de scientifiques, c'est planifier ce qu'on va faire du point de vue énergétique, parce que, à la fin des fins, ce que les gens montrent, à la fois les biologistes et les physiciens, c'est qu'on va vivre dans une société, dans un monde très dur, si on ne change pas notre mode de vie. C'est-à-dire que si on ne change pas la source de nos maux, qui est en fait combien il y a de CO2 dans l'atmosphère. Si on n'arrive pas à faire des planifications sur du long terme de ça, on va être exactement dans ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez vous trouver face à l'écluse dans un contexte où vous n'allez plus passer. Et donc c'est très important de comprendre que le système dans lequel on vit est un système à plusieurs vitesses et que la perturbation tellement rapide qu'on fait nous oblige à faire des changements de notre mode de vie sur des temporalités qui sont courtes. Et c'est d'autant plus embêtant que ce n'est pas des choses qui sont faciles à faire.
Xavier Capet, vous êtes océanographe, mais vous êtes quelqu'un d'engagé aussi dans la société. Vous avez, par exemple, témoigné lors de procès de décrocheurs et décrocheuses, qui sont ces militants qui ont décroché des portraits d'Emmanuel Macron pour protester contre son inaction sur le climat, ou en tout cas son manque d'action. Donc vous avez ce regard aussi politique, et vous avez ce regard aussi sur les politiques menées par le gouvernement français. On a une loi climat et résilience qui doit être votée en ce printemps 2021. Si on regarde en gros ce qui est sur la table en termes de politique par le gouvernement et qu'on compare avec tout ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure sur l'ampleur des modifications, on est à l'échelle, on n'est pas à l'échelle, comment vous regardez ça?
Moi, je regarde ça avec un œil. C'est pas spécifiquement mon domaine d'expertise, mais donc je m'intéresse à ce qui se fait sur la question de la transition énergétique. Je m'intéresse en particulier à ce que le Haut Conseil pour le climat en dit, par exemple. Et effectivement, je pense qu'il est très clair que le niveau d'urgence lié aux questions climatiques, mais pas seulement en fait, malheureusement, parce qu'il y a aussi les questions écologiques dont on ne va pas parler, mais qui sont très présentes et dont auxquelles il faut faire attention. Le compte n'y est pas du tout, c'est très clair. Sur la question de pourquoi il y a urgence, peut-être je voudrais compléter ce qu'a dit Gilles, et en lien avec toute la discussion qu'on a eue sur les points de bascule. Le premier point dont il faut bien avoir conscience, c'est que oui, il y a effectivement des phénomènes d'emballement possibles, mais sur des échelles de temps pertinentes politiquement, on va dire 2000, et puis aussi humainement appréhendable, typiquement jusqu'à 2100, la vie de nos enfants et puis peut-être une partie de celle de nos petits-enfants, c'est nous qui avons les clés, c'est nous qui avons le destin du climat en main sur cette échelle de temps-là. L'emballement, la fonte du permafrost, ça viendra possiblement rajouter un supplément de réchauffement. Mais typiquement, même par des gens qui travaillent sur ces questions de points de bascule, on est sur des ordres de grandeur de l'ordre d'un dixième de degré en plus, si ça s'emballe. Voilà, donc la grande partie du problème, elle est entre nos mains, aux échelles de temps sur lesquelles on peut vraiment penser les choses. Comment est-ce que on peut voir la question de l'urgence? Moi, je pense que ce qui est très important, l'urgence dans les 10 ou 20 prochaines années, c'est fondamental, c'est lié au fait que le scénario climatique pour les 10 ou 20 prochaines années, il est déjà écrit. On sait que ça va empirer.
Du fait de cette inertie.
Du fait de toute l'inertie. Mmh. L'inertie du système physique et aussi l'inertie de nos sociétés. Mmh. On va pas débrancher l'ensemble des centrales à charbon qu'il y a à travers le monde ou transformer toutes nos bagnoles d'ici demain. Donc ce scénario-là, il est déjà écrit. On voit déjà des manifestations importantes, notamment en termes d'événements extrêmes. Donc on sait que ces manifestations vont empirer. Donc moi, ce qui m'importe dans cette histoire, ce qui me concerne, c'est dans quel état d'esprit on sera en 2030, quand le climat se sera encore déréglé, qu'on verra plus nettement les manifestations du changement climatique. Est-ce qu'on sera déjà, est-ce qu'on pourra regarder derrière nous et qu'on pourra voir tout le chemin parcouru et se dire on est en train d'avancer, on est dans la bonne direction, on a déjà fait du chemin, et encore plus en 2040, hein, où est-ce qu'on sera encore globalement à l'arrêt avec des actions timides qui donnent pas de résultats, auquel cas là, on risque d'avoir des points de bascule, mais des points de bascule dans la conscience individuelle et collective du problème du changement climatique, où il y aura certainement du découragement. Et donc il faut absolument éviter ça, et pour éviter ça, l'urgence, c'est d'agir, d'utiliser efficacement la décennie qui vient et la suivante.
J'ai une dernière question pour tous les deux. J'ai en mémoire une action qui s'était passée il y a longtemps maintenant, c'était en 2007, qui était un blocage de l'aéroport de Heathrow à Londres, un des plus gros aéroports du monde, où des militants avaient occupé l'aéroport pour empêcher la construction de nouvelles pistes. Et à l'époque, ils avaient terminé leur action en défilant avec une grande banderole qui disait « Nous sommes seulement armés avec de la science revue par les pairs. » Donc c'est en anglais, « We're only armed with peer-reviewed science. » Et il y avait l'idée, en fait, de « Eh ben, c'est nous qui mettons en place, qui mettons en œuvre ce que requiert la connaissance scientifique du changement climatique par une action aussi radicale que bloquer une infrastructure. Il faut plus d'infrastructures de ce type, de la même manière que des gens vont occuper des ZAD pour dire il faut pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il faut pas d'Europa City ou de gare du Grand Paris sur le triangle de Gonesse, et il faut laisser tranquille la zone du Carnet. Est-ce que ce que vous dites là sur malgré tout quand même l'ampleur des bouleversements possible en termes de climat, est-ce qu'il ne faut pas que cette notion de point de rupture, elle soit aussi assimilée dans les politiques en fait publiques, en disant aussi rompre avec des politiques économiques telles qu'elles se sont construites depuis, je ne sais pas, les 30 Glorieuses ou le début de la révolution industrielle? Est-ce que ça ne fait pas sens quand même de faire redescendre cette notion de rupture dans ces politiques publiques?
Moi, je peux répondre. En fait, je suis relativement expert en climat, paléoclimat. Après, j'ai des opinions de citoyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas être choqué. Moi, ça me frappe à chaque fois. C'est que quand on fait des conférences, les gens vous écoutent, ils sont d'accord avec vous et ils vous demandent que faire. Et ça me met toujours très mal à l'aise parce que ça donne un peu l'impression que, comme vous avez compris quelque chose sur les paléoclimats, ça vous donne tout à coup une aura où vous allez devenir un gros et dire aux gens ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas du tout comme ça que je vois les changements. Moi, je pense que on peut avoir le plus beau discours du monde, on peut avoir les meilleures alertes possibles. Si elles ne sont pas comprises par les gens ou par un tout petit nombre de gens, eh ben, ça ne va pas le faire. Et donc moi, je m'engage autant que je peux, comme je peux, avec le peu de temps que j'ai, pour justement le fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire que les concepts imbibent les gens, pour que les gens comprennent ce repère. Donc on a fait, par exemple, pas mal de travaux sur on a créé un master sur climat et médias pour former des journalistes. Et l'idée, c'est quand même que les gens aient un maximum de repères de façon à ce que, comme disait Xavier, quand la situation va se tendre, parce que si on fait rien, la situation va se tendre, sorte pas d'une boîte quelqu'un qui prétend avoir la solution, alors que la solution elle est forcément compliquée, et elle est forcément sur des temps longs, et donc que ce soit purement émotionnel. Et donc il y a un objectif là, culturel, comme vous disiez, à la fois des citoyens pour qu'ils comprennent ce qui va leur arriver, et des dirigeants politiques pour qu'ils prennent le plus rapidement possible des décisions. Mais moi, personnellement, et comme citoyen, je suis quand même assez surpris, parce qu'en fait, il y a l'initiative que j'ai trouvée très bonne des citoyens, du Comité citoyen pour le climat, ouais, du CCC.
La Convention citoyenne pour le climat.
Exactement. La Convention citoyenne pour le climat, qui a prouvé qu'on pouvait prendre 150 personnes, les former, et qu'elles aient des propositions qui sont très justes. Bon, vous savez ce qu'il en a suivi, malheureusement. Enfin, comme disait Xavier, on n'est pas du tout à la hauteur de ce qui était demandé. Et pareillement, il y a eu aussi un haut conseil qui a été sur le climat qui a été mis en place. Et des deux côtés, on dit que la politique mise en place n'est pas à la hauteur de, enfin, pour ce qui est notre pays, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ça, cette question-là, elle reste. Et même, je pense, comme scientifique, on ne peut pas être insensible au fait que le CO2 est mesuré, comme je vous l'ai dit, il est mesuré dans plusieurs endroits du monde. Tous les matins, quand on se réveille, on peut les regarder. Et on voit que rien ne change. C'est-à-dire que l'évolution globale du CO2, elle est sur la pire des trajectoires. Et donc, comme disait Xavier, dans les dizaines d'années qui viennent, tout va être là. Comment on va faire pour modifier cette trajectoire, compte tenu du fait que c'est pas parce qu'on a la connaissance, si elle n'est pas diffusée et comprise, qu'on a forcément les actions qui vont avec. Et donc, pour revenir à votre question, excuse-moi, du tout début, moi, je ne suis pas super forcément convaincu. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des activistes, sans doute. Mais je pense que le plus important, c'est que les gens se repèrent. Parce que sinon, on ira vers des confrontations de plus en plus dures. Et je pense quand même qu'il faut remettre en cause et avoir des nouveaux critères. Le critère des années 70 sur faire le plus d'argent possible en un minimum de temps qui est toujours là, il n'est pas forcément très opérationnel pour les questions climatiques et environnementales.
Xavier Capet, un dernier mot sur cette question de rupture ou de bascule dans les politiques climatiques pour répondre à ces bouleversements.
Oui, dans les politiques éventuellement, ou dans les actions politiques qui sont menées pour en faveur d'un agenda de lutte contre le changement climatique. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un niveau de confrontation qui a été croissant ces dernières années, on va dire, et que il a produit un certain nombre de... Si on se place juste sur le point de vue de l'efficacité, le gouvernement, de temps en temps, communique sur le fait qu'ils sont écologiquement responsables parce qu'ils ont fait un certain nombre de gestes, par exemple l'arrêt de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, et tout un tas d'autres sujets, hein, Gonesse, d'autres, enfin l'Europa City. Ces changements-là, ils ont été gagnés par la confrontation, et donc quelque part, c'est un peu une conséquence logique d'une façon de considérer l'écologie dans les politiques publiques. Donc par rapport à ça, c'est très clair. Après, par rapport à ces questions de points de bascule, oui, effectivement, on a besoin de points de bascule dans la société sur ces questions. Ça peut venir en partie d'un rapport à la connaissance des problèmes climatiques et écologiques, mais ça peut venir aussi à travers l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu entraînant du fait quand on commence à faire des choses en faveur du climat, on s'ouvre des portes pour se laisser envahir par la réalité du changement climatique. Et c'est un peu ce qu'une partie de la société était en train de vivre à l'heure actuelle. Il y a une partie de la société qui est parfaitement consciente du fait que le changement climatique est une réalité grave, qu'il y a aussi une crise écologique grave. Et je pense que du côté des scientifiques, de certains scientifiques, il est temps de prendre conscience de ça et du fait que quand on utilise les points de rupture. On a parlé de points de bascule sur le changement climatique. Quand on communique là-dessus pour essayer de faire prendre plus conscience, plus pleinement des problèmes, on ne parle pas seulement à des dirigeants qui sont un peu durs d'oreille sur cette question-là ou à des gens qui ont une relative insouciance par rapport au changement climatique. On est aussi en train de parler à des gens qui ont pleine conscience de tout ça et pour qui ça a un côté anxiogène et notamment parce que c'est des notions compliquées. Voilà. Et donc moi, je pense qu'il y a une discussion entre scientifiques et le public qui va devoir se complexifier parce que Il y a une multiplicité de personnes et de prises de conscience. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour notre communauté.
Et de réactions affectives à toutes ces questions. Émotionnelles et affectives à toutes ces questions. Il faut qu'on arrête parce que la discussion a déjà duré longtemps. Mais je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux d'avoir pris le temps, pour le coup, de venir ici nous expliquer tout ça en détail. Merci beaucoup. Et toutes ces questions climatiques restent très importantes pour Mediapart. Donc, je vous invite à continuer à nous lire et à nous regarder dans les prochaines semaines et mois sur cette question du climat. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis et donc à bientôt sur Mediapart.